France Musique.
Et merci d'avoir choisi France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Une grève sans précédent, puis les spectacles annulés à cause de la crise sanitaire. L'Opéra de Paris a vécu une saison cauchemardesque. Plus de 45 millions de dettes, la maison est à genoux, s'alarme son directeur. Stéphane Lissner, qui devait rester encore un an, a annoncé son départ pour la fin de l'année. Pourquoi si tôt? Quelle solution préconise-t-il pour sauver la maison? Stéphane Lissner est l'invité de France Musique ce matin. Il sera en studio pour répondre à nos questions, toutes nos questions, dès 8h35 et jusqu'à 9h. Le virus est toujours là, on le sait, on nous le dit, preuve tangible, avec l'annulation en pleine édition du festival Artistes en Résidence, Artistes en Résistance à l'Opéra de Dijon, à la suite d'un cas de Covid-19 parmi les musiciens. C'est au sommaire de Classique Info avec Sophie Anastasio dans 40 minutes. Et puis Clara veut être la meilleure base de données consacrée aux compositrices, elle vient d'être lancée. Suzanne Gervais nous présente Clara dans 25 minutes.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique et c'est l'orchestre de l'Opéra de Paris qui ouvre avec Mozart, Don Giovanni.
Thank you.
un enregistrement célèbre et date de 1979, l'ouverture de Don Giovanni de Mozart, avec l'orchestre de l'Opéra de Paris dirigé par Laurine Mazel. Don Giovanni, l'une des productions de l'Opéra de Paris annulée cette saison, ça aurait dû être il y a quelques semaines, en mars-avril, à Garnier, dans une mise en scène de Ivo Van Hoff. Dans une demi-heure, Stéphane Lissner, l'actuel directeur de l'Opéra, est notre invité exceptionnel. Et puis Don Giovanni, c'est un opéra qu'un réalisateur a utilisé avec une folle intelligence à la fin de la cérémonie, avec Isabelle Huppert et Sandrine Bonner. Si vous ne l'avez jamais vu, je ne vous en dis pas plus, mais il y a une double lecture entre ce qui se passe à l'image et le texte interprété par les chanteurs de l'opéra en même temps, dans ce film. Claude Chabrol, grand mélomane, il y a quelques mois, France Musique vous a proposé d'ailleurs une rediffusion de son concert égoïste avec Claude Maupomé. C'est à réécouter dans les podcasts de Radio France. Claude Chabrol, qui aurait eu 90 ans aujourd'hui, 24 juin 2020. Elle l'a dit hier soir lors de la cérémonie des Molières, je préfère vivre avec des risques que survivre dans un monde aseptisé et apeuré. Les mots d'Élodie Menant avec Éric Bru. Elle a remporté le Molière du meilleur spectacle musical. Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty, mise en scène par Johanna Boyer au théâtre du Petit Montparnasse. Autre vainqueur de cette soirée qui avait été enregistrée, qui a été diffusée hier soir, c'est Alexis Michalik avec sa nouvelle pièce Une histoire d'amour à la Scala Paris. Meilleur metteur en scène d'un spectacle de théâtre privé. Simon Abkarian et Alex Lutz sont sacrés aussi aux Molières, quelques-uns des lauréats de cette cérémonie, pas comme les autres. De son côté, le syndicat professionnel de la critique théâtre, musique et danse a remis son palmarès, on l'évoquait hier dans Classique Info. Et ce sont deux ex-aequo à avoir été désignés personnalité musicale de l'année, le ténor Benjamin Bernheim et le chef Léo Varinsky. Léo Varinsky à la tête de son ensemble Les Métaboles. Leur nouveau disque s'intitule Le Jardin Féerique, un programme d'œuvres a cappella. On y trouve notamment ces fleurs et ces arbres de Camille Saint-Saëns.
Les fleurs et les arbres, les roses, les marbres, les ors, les aimants, la mer, les fontaines, les monts et les plaines,
Les fleurs et les arbres, Camille Saint-Saëns avec Les Métaboles dirigés par Léo Varinsky, élu personnalité musicale de l'année par les critiques, ex aequo avec le ténor Benjamin Bernheim. C'est un disque nomade musique intitulé Le Jardin Féerique. Et je vous signale d'ailleurs que sur la plateforme Vox de Radio France, vous pouvez gratuitement télécharger la partition à quatre voix de ce chœur magnifique. À propos de jardins féeriques, ils le sont, les jardins de William Christie, ouverts tout l'été, c'est en Vendée, attiré sur réservation. Mais bonne nouvelle, le festival dans les jardins de William Christie, lui aussi, il va avoir lieu, ce sera du 22 au 29 août, selon l'expression consacrée, une édition repensée pour permettre le respect de la réglementation sanitaire en vigueur. William Christie, le voici au clavecin dans la musique si audacieuse de Pancras Royer, La Remouleuse. Remouleuse de Pancras-Royer, William Christie au clavecin. Comme tous les jours à 8h15, une voix que nous retrouvons cet été sur France Musique frappe toc toc à la porte du studio et nous propose une musique ce matin. C'est Thomas Vergracht dans Versus tous les dimanches de juillet de 13h à 14h. Il va mettre en miroir un compositeur du passé face à un compositeur d'aujourd'hui pour créer des rencontres inattendues. Boulez face à Debussy ou encore Thomas Hadès face à Liszt. Thomas Vergracht, c'est lui qui a choisi pour nous ce matin une musique.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je vais vous faire écouter 5 minutes de musique parmi les plus mythiques du répertoire contemporain. Avec un nom qui respire le parfum âcre des enfers, le Britannique Thomas Hadès est un des rares musiciens à être un aussi grand compositeur qu'un grand pianiste et un grand chef d'orchestre. D'ailleurs, un peu comme Berlioz ou Sibelius, il va jouer littéralement de l'orchestre, tant son écriture n'est en réalité qu'une immense ivresse virtuose et tournoyante. La particularité de la musique de Thomas Hadès, c'est d'abord une espèce d'évidence. On peut en siffloter des passages entiers, alors que quiconque a déjà regardé une de ses partitions ne peut qu'en admirer ses beautés plus que complexes. La particularité de cette musique encore, c'est sa brillance, qui est toujours teintée d'une espèce de délicate amertume et d'une saveur vraiment particulière. À vrai dire, je me souviens même plus exactement de la manière dont j'ai découvert la musique de Thomas Hadès, et Azila en particulier. Cela fait tellement de temps que cette musique m'accompagne, presque comme une ombre. Asila, cela veut dire à la fois maison de fou et havre de paix en latin, un lieu à la fois idyllique et tourmenté, enivrant jusqu'à l'extase.
Un extrait d'Extasio d'Asila de Thomas Hadès, le compositeur à la tête de l'Orchestre Symphonique de Londres. Le choix ce matin de Thomas Vergracht, Versus, ce sera donc tous les dimanches en juillet de 13h à 14h sur France Musique, où il est, comme partout ailleurs, 8h19.
And now, ladies and gentlemen, it's my pleasure to present the Garnier Sisters. And here they are, the famous Garnier Sisters.
As the summer has gone, something to look back upon. look back on. And when the long winters come, they come. Some people just sit and sigh for the summertime, but to relive one summer's day, when winter clouds have blown your way, and your heart's heavier than clay, you've got to learn to love this life, to love the flowers, to love the sunshine and shower, to love the tears, to love the joke, to love green fields and the smoke, to love the day, to love the night, to love the valleys and the heights, to love the sea, to love the sand, to love that life is grand. When there is no loving cup, some folks are all broken up. Broken up when there's no future for them. Some people just sit and sigh for a memory, but to revive the love you have, if you've a heart supremely sad, and every day seems worse than bad, you've got to love. To love this life, to love the flowers, to love the sunshine and the shower, to love the tears, to love the joke, to love the green fields and the smoke, to love the day, to love the night, to love the valleys and the heights, to love the sea, to love the sand, to love that life is grand. When you recapture the rapture of finding your heart is in love, so in love you want to beat on a drum, cause every day will turn into a summer's day. Yes, when you find your feet again, no longer paddling in the rain, but walking down a sunny lane, you've got to sing. Sing of this life, sing of the flowers, sing of the sunshine and the shower, sing of the tears, sing of the joke, sing of the green fields and the smoke, sing of the day, sing of the night, sing of the valleys and the heights, sing of the sea, sing of the sand, sing about love and life is grand. Sing of the green fields and the smoke, sing of the day, sing of the night, sing of the valleys and the heights, sing of the stars, sing of the light, sing of the flowers, sing of the flowers, sing of the stars, sing of the stars, sing of the sea, sing of the sand, sing about love and life is grand.
Si après ça vous ne passez pas une bonne journée, la chanson d'un jour d'été des Demoiselles de Rochefort, mais ça ne vous aura pas échappé en anglais. Une version d'ailleurs jamais sortie au cinéma. Finalement, c'est en version française que le film de Jacques Demy sur cette musique de Michel Legrand a gagné le monde anglo-saxon dès 1967. Et cette bande magnétique n'a été exhumée qu'il y a quelques années, trouvée par hasard par l'infatigable spécialiste de musique pour le cinéma Stéphane Lerouge. Sœur jumelle, rencontre de la musique et de l'image. C'est une plateforme web qui vient d'être lancée à Rochefort, justement, par Julie Gayet, l'actrice et productrice qui entend lancer un festival là-bas qui croise musique et cinéma. C'est reporté cette année, ce sera l'année prochaine en juin à suivre. Donc, 8h23, voici Suzanne Gervais. Bonjour Suzanne.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, on parle de compositrice et d'un projet dont vous nous parliez en début de saison.
Oui, ce projet, c'est la plateforme Demandez à Clara, dont je vous avais annoncé le lancement dans une de mes premières chroniques de la saison. Effectivement, ça remonte, c'était fin août. Eh bien, ça y est, cette base de données 100% compositrice est en ligne et mérite qu'on en parle ce matin parce qu'elle démarre en trombe. La plateforme s'appelle Clara, prénom de celle dont nous avons fêté le 200e anniversaire en 2019. La pianiste virtuose et compositrice Clara Wieck, épouse de Schumann. Clara, un prénom symbole des dizaines et des dizaines de compositrices longtemps éclipsées dans l'histoire par les hommes, frères, époux, pères, contemporains masculins. La plateforme référence donc les œuvres des compositrices d'hier et d'aujourd'hui de toutes les nationalités qui sont trop peu connues du grand public, mais aussi des musiciens et des programmateurs. 4662 œuvres de 770 compositrices très exactement sont déjà référencées. Et ce n'est qu'un début. Si vous êtes interprète et que vous nous écoutez ce matin, eh bien rendez-vous sur le tout nouveau site www.présencecompositrice.com, compositrice au pluriel. Vous cliquez sur « Demander à Clara ». Vous ne pouvez pas le manquer, l'onglet est bien gros en rouge. Et là, joie, vous pouvez faire vos recherches par époque de 1618 à 2020, par instrument, effectif instrumental, effectif vocal, par nationalité aussi. C'est vraiment très très bien fait, chapeau, et on trouve des pépites. Moi, par exemple, j'ai découvert la musique de Vanessa Lann, la compositrice néerlandaise de 52 ans, celle aussi d'une compositrice disparue, Clémence de Grandval. Alors sur Clara, vous n'avez en revanche pas de partition, mais toutes les références des œuvres, l'éditeur et le site de la compositrice pour pouvoir ensuite vous procurer, pourquoi pas, la partition. En un clic, vous pouvez partager votre découverte sur les réseaux sociaux. Pour écouter les morceaux, n'hésitez pas à faire un tour sur SoundCloud où sont inscrits la plupart des compositrices contemporaines. Alors j'ai envie de dire, sans exagérer, que c'est un petit peu la plateforme qu'on attendait. Elle est collaborative, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez renseigner une œuvre si vous possédez des archives notamment, ou tout simplement si vous avez entendu un morceau incroyable composé par une femme. Les contributions sont mises en ligne au fur et à mesure, après avoir été examinées par un comité scientifique qui est composé de musicologues et de musiciens. Plus d'excuses donc, voici de quoi alimenter les futurs programmes de concerts, concerts de musiciens professionnels, d'amateurs et d'élèves d'écoles de musique et de conservatoires.
Suzanne Gervais, Musique Connectée, c'est aussi en podcast sur l'appli Radio France. Suzanne, longue vie donc à Clara. Merci, à demain.
À demain.
Clara Schumann, longue vie à sa musique. Faisons-la vivre sur France Musique. Et là, joie, voici du hautbois. Une romance, la première romance de Clara Schumann avec Alexei Ogrinchouk et Léonide Ogrinchouk sur France Musique, 8h29.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Une grève sans précédent, des spectacles annulés à cause de la crise sanitaire. L'Opéra de Paris a vécu une saison cauchemardesque, une saison en enfer. Plus de 45 millions de dettes, la maison est à genoux, s'alarme son directeur. Stéphane Lissner, qui devait rester encore un an, a annoncé son départ pour la fin de l'année. Il est notre invité sur France Musique dans 5 minutes et jusqu'à 9h. Et puis au sommaire, deux classiques infos. Dans une dizaine de minutes, un festival de Dijon annulé en raison d'un artiste positif au Covid-19. C'est le festival Artiste en Résidence, Artiste en Résistance. On en parle avec Sophia dans une dizaine de minutes. France Musique, 8h30, le journal Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Alors que l'UNEDIC prévoit 900 000 suppressions d'emplois d'ici la fin de l'année, y aura-t-il une vague de licenciements dès le mois de juillet? Question légitime au vu des nouvelles règles qui vont encadrer le chômage partiel de longue durée. Beaucoup de petites entreprises s'inquiètent de certaines contreparties exigées par l'exécutif. Le chef de l'État qui reçoit cet après-midi les partenaires sociaux dévoilera les arbitrages de l'État en la matière. L'évolution de ce régime censé protéger l'emploi sera donc scrutée à la loupe par les syndicats, Grégoire Le Callot.
Les syndicats ont d'ores et déjà tracé une ligne rouge. Pas question de voir baisser l'indemnité versée aux salariés par l'État et l'UNEDIC. Elle se monte à 84% du salaire net depuis le confinement. L'enjeu est donc au niveau du remboursement accordé par l'État aux entreprises sur l'indemnité complémentaire qu'elle verse aux salariés. Elle avait déjà diminué début juin. Si le gouvernement baisse trop vite ce curseur, les entreprises risquent de licencier plus. Ensuite, les partenaires sociaux attendent de connaître les contours du nouveau dispositif de chômage partiel, longue durée cette fois, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet. Il doit épauler les entreprises qui sont viables, mais confrontées à des difficultés qui vont durer longtemps. Il sera négocié au sein de chaque entreprise. Plus favorable que le régime actuel, il sera assorti de conditions pour sauvegarder l'emploi, mais il n'exclura pas pour autant la possibilité de licencier si la situation s'aggrave. Un point difficile à faire avaler aux syndicats. Ils estiment que ceux qui touchent des fonds publics doivent s'engager à conserver tous les emplois.
L'État appelé à la rescousse par la CGT et par la CFDT, les deux syndicats lui demande d'intervenir rapidement pour faire pression sur Nokia et éviter la suppression de 1233 emplois en France d'ici 2021. La CGT et la CFDT soulignent que Nokia touche, comme d'autres, des aides publiques via le CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Une grève de 24 heures qui devrait se voir et s'entendre sur les antennes du groupe Next Radio TV. Les salariés refusent, eux, le plan d'économie de la direction qui, faute de recettes publicitaires suffisantes pendant tout le confinement, veut tirer un trait sur des centaines de postes de travail. BFM TV et RMC sont particulièrement concernés. Une nouvelle journée d'action pour défendre l'hôpital public. Plusieurs syndicats et collectifs militent pour une mobilisation nationale mardi prochain. Alors que le Ségur de la santé se termine bientôt, les soignants réclament toujours au moins 300 euros de plus par mois, un plan de recrutement digne de ce nom et l'arrêt de toutes les fermetures à l'ordre du jour. Plus de 8 millions d'euros d'amende pour le groupe Servier et 5 ans de prison, dont 3 ans ferme pour son ancien numéro 2. Telles sont les réquisitions du parquet devant le tribunal correctionnel de Paris chargé de juger le scandale sanitaire du Mediator. Ce procès doit se terminer le 6 juillet avec un jugement attendu en 2020. Les avocats de François Fillon demandent la réouverture du dossier de leur client. Ils s'appuient pour cela sur les propos d'Eliane Houlouette, celle qui dirigea le PNF, le parquet national financier, dit avoir subi un contrôle très étroit du parquet général, son autorité de tutelle et cependant la campagne présidentielle de 2017. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il avait saisi le Conseil supérieur de la magistrature. Emmanuel Macron qui, d'après Mediapart, serait intervenu pour sauver Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. L'homme a fait l'objet d'une enquête préliminaire pour conflit d'intérêts et prise illégale d'intérêts. Une enquête rapidement classée sans suite après un courrier du chef de l'État, Jean-Philippe Deniaux.
Au bout d'un an d'enquête et de perquisition, le dossier des policiers de la brigade financière semblait s'enrichir d'éléments compromettants. En mai 2019, les enquêteurs rédigent un premier rapport accablant, raconte Mediapart. Il concluait qu'Alexis Kohler n'avait rien fait pour éviter les conflits d'intérêts et les prises illégales d'intérêts. C'est alors que plusieurs attestations parviennent aux enquêteurs, dont celle d'Emmanuel Macron, transmise au parquet national financier le lendemain même du départ de sa chef, Eliane Houlette, Gazette, réputée pour son indépendance, une lettre qui, étrangement, ne sera jamais enregistrée dans le dossier. Et tout va basculer. Le 17 juillet, le rapport définitif de la police financière est totalement réécrit. Désormais, il blanchit Alexis Kohler. Tous les faits gênants, toutes les interrogations ont disparu, écrit Mediapart. Et un mois plus tard, le procureur refermera le dossier avec un classement sans suite. C'est maintenant au parquet national financier que nous n'avons pas pu joindre hier soir d'apporter des explications.
Une collecte de fonds virtuels avec à la clé plus de 11 millions de dollars. Barack Obama a joué de sa popularité pour venir en aide à Joe Biden, le candidat démocrate qui affrontera, on le sait, Donald Trump au mois de novembre. L'actuel locataire de la Maison-Blanche était, lui, il y a quelques heures en Arizona pour un nouveau meeting de campagne. Dans cet état d'Amérique, le nombre de personnes contaminées par le coronavirus a encore battu des records avec plus de 3 500 cas supplémentaires en moins de 24 heures. Le virus qui repart également à la hausse en Allemagne. Berlin vient d'ailleurs de décider de reconfiner plus de 600 000 habitants dans deux cantons du pays. Un temps estival sur toute la France, quelques nuages sur les reliefs tout de même des Alpes et des Pyrénées. Ils donneront des averses en fin de journée. Les températures sont en hausse de 13 à 22 degrés ce matin, de 25 à 37 degrés cet après-midi, Jean-Baptiste Urbain.
Mais oui, c'est un peu l'agitation, Olivier, parce qu'on est tout ému. C'est le retour d'un invité en studio. Ça ne nous est pas arrivé depuis longtemps. Du coup, j'ai renversé ma bouteille d'eau, mais ça aurait pu être du café sucré. Merci Olivier, à demain.
À demain.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer !
On a des jiggle punk maintenant sur France Musique. Notre invité ce matin jusqu'à 9h dirige l'Opéra National de Paris depuis quasiment 6 ans. Bonjour Stéphane Lissner.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions en direct jusqu'à 9h sur France Musique. Il y a près de 15 jours, vous avez annoncé votre départ anticipé à la fin de l'année au lieu de l'été prochain. Pour expliquer-vous en substance qu'il n'y ait plus qu'un seul capitaine à bord, votre successeur Alexander Neff. Depuis deux semaines, cette annonce a suscité de nombreuses réactions à l'extérieur comme à l'intérieur de l'opéra. Vous vous y attendiez à toutes ces réactions ?
Ben, j'ai pas pensé aux réactions, j'ai pensé à l'intérêt de l'entreprise. Pour moi, aujourd'hui, d'abord, je voudrais simplement dire que j'ai prévenu 7 mois à l'avance, de manière à ce qu'on ait le temps de s'organiser. Ensuite, comme je l'ai dit, il faudra prendre des décisions drastiques, importantes pour l'année 2021. Et j'avais pas du tout l'intention de faire de la figuration pendant 6 mois. J'avais l'intention de mettre en place les travaux immédiatement, parce que je pense que c'était important de faire des travaux tout de suite pour que justement mon successeur puisse l'année prochaine avoir une saison complète. Et puis parce que je considère qu'il faut que ces décisions, elles ne peuvent être prises que par le capitaine qui va diriger la maison pendant les 5 prochaines années.
7 mois à l'avance, mais on a l'impression que Alexander Neff a été prévenu juste quelques jours avant votre annonce.
Non, je pense qu'il a été prévenu effectivement quelques jours, mais encore une fois, 7 mois à l'avance. C'est-à-dire il a été prévenu au moment où, après avoir rencontré le ministre et moi-même l'avons prévenu. Et voilà. Et je pense que entre ce qui a été écrit et la réalité, il y a quand même une grande différence, parce que, premièrement, Alexander Neff était très heureux que je puisse faire ses travaux immédiatement, parce que ça lui donne de l'oxygène pour sa rentrée prochaine. Et puis ensuite, parce que je crois que les propos qu'il a tenus ont été un petit peu déformé. Je pense qu'il est en train de discuter sereinement. C'est pas facile, vous savez. On oublie que moi, lorsque je suis venu, j'ai été nommé directeur de l'Opéra de Paris. J'ai été nommé un an anticipation et qu'on a mis fin au contrat de Nicolas Joël un an avant. Personne s'est posé la question comment on fait pour quitter la Scala de Milan un an avant la fin de son contrat. On a tous plus ou moins, malheureusement, on est tous, quand on est entre deux moments comme ça, on dirige une entreprise et on va en diriger une autre, on est tous pris dans une période qui n'est pas très agréable. J'ai connu ça avec Aix-en-Provence quand j'ai quitté Aix pour aller à la Scala de Milan. J'ai connu ça de Aix à Paris. Maintenant, je connais ça de Paris à Naples. La bonne nouvelle, c'est qu'après Naples, il n'y aura plus rien. Comme ça, au moins, j'aurai pas de problème.
C'est vous qui le dites. Vous parlez d'Alexander Neff. Donc, pour que les choses soient bien claires, et puis on n'y revient pas. Vous parlez. Il n'y a pas de problème de communication entre
aucun
vous.
Aucun problème de transition. On se parle depuis plusieurs semaines. Et on travaille. Et c'est certain que pendant la réforme, pendant les grèves. grève liée à la réforme des retraites. On a eu des discussions sur la situation très préoccupante de la maison, puisque ces grèves ont généré des pertes très importantes. Et puis ensuite, le Covid-19. Donc, effectivement, l'entreprise a subi deux chocs, l'un social, l'autre sanitaire. Et il est clair que ça met aujourd'hui l'entreprise dans cette situation extrêmement difficile. Donc, il va falloir prendre des décisions. Et ces décisions, d'ailleurs, comme vous l'avez vu, le ministre a demandé clairement au nouveau directeur de préparer un plan de relance, de réfléchir sur le modèle économique, social évidemment, et donc par définition le projet artistique.
Stéphane Lissner, vous avez évoqué aussi son nom. On a appris la semaine dernière la disparition de votre prédécesseur, Nicolas Joël. Quel souvenir vous conservez de lui ?
Ben écoutez, Nicolas Joël, on ne se connaissait pas très bien, mais on s'est rencontrés pendant la transition. Et moi, pendant les deux ans où j'ai préparé ma venue à Paris et que donc je venais régulièrement au moins une semaine par mois, sinon plus, de Milan pour préparer ma venue à l'Opéra de Paris, eh bien, à chaque fois que je venais, j'allais le rencontrer dans son bureau et nous bavardions ensemble. Et on s'est connus. Quand je dis connu, on a beaucoup bavardé ensemble, et c'était un homme qui était c'était un homme bien, parce que c'était un homme qui pensait à l'entreprise, qui pensait à l'Opéra de Paris, et lui aussi d'ailleurs il avait des idées pour ça, et il me disait: c'est à toi de décider qui prendra la direction musicale plus tard, c'est à toi de décider qui deviendra le directeur de la danse, je pourrais le faire moi, mais c'est toi qui va diriger, c'est à toi de le faire. Et donc on a eu une transition vraiment excellente, comme je pense on aura une excellente transition qui va se terminer à la fin de l'année avec Alexandre Ernef. C'est très important, la transition, parce que dans la maison, ça n'a pas toujours été le cas, et parfois certaines personnes de mes prédécesseurs n'ont pas toujours été à la hauteur de ces transitions.
Après moi, le déluge pour certains. Une maison à genoux, ce sont vos mots pour qualifier la situation de l'Opéra de Paris, cette situation mais aussi son avenir, les solutions, soyons positifs, que vous préconisez. On va y revenir jusqu'à 9h, mais d'abord, certes, la saison a été, c'est un euphémisme, compliqué, entre la fermeture du théâtre pour des raisons de crise sanitaire et les grèves contre le régime spécial, la réforme du régime spécial des retraites. Mais il y a eu de très beaux moments, comme ces Indes galantes mises en scène par Clément Cogitor en début d'année. Sauvages, les Indes galantes, ici avec la Chapelle Royale dirigée par Philippe Hervègue. Les Indes galantes mises en scène par Clément Cogitor. C'était en début de saison à Bastille. Notre invité ce matin est Stéphane Lissner, directeur de l'Opéra National de Paris. Ces Indes galantes, c'est l'un des beaux souvenirs de cette saison compliquée, chaotique. C'est l'une de vos grandes fiertés de ce mandat, parmi d'autres.
Les Indes, le spectacle. Oui, c'est un spectacle qui a rencontré un énorme succès. Je pense que un succès Oui, du public vraiment exceptionnel. Non, je pense qu'il y a eu, c'est pas à moi de le dire, mais je pense qu'il y a eu quelques productions qui ont marqué l'opéra. Et je pense à Moïse Aron, je pense au Cosi d'Anne Teresa de Kertzmecker, à Lady Macbeth de Varlikovsky, au Lire de Reinemann. Enfin, je pense qu'il y a eu pas mal de spectacles. Évidemment, le Château de Barbe Bleue, magnifique de Varlikovsky avec Barbara Hannigan dans La Voix Humaine. Non, je pense que les Cinq Galants simultanément avec la Traviata de Simon Stone à Bastille, ces deux spectacles qui sont résolument modernes, et cette modernité, elle tout d'un coup, elle nous projette, enfin quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, on arrive à cette crise sanitaire, et je me disais, mais au fond, c'est comme un avant-signe des temps dans lesquels nous sommes. Et ces productions qui sont faites avec des Danseurs du Crump, avec d'un côté, avec la mise en scène de Simon Stone autour
la présence des réseaux sociaux,
etc. Je veux dire, c'est vraiment le moment dans lequel on vit, et tout d'un coup, on vit tous pour la première fois quelque chose de, alors j'ai envie de dire de terriblement moderne, parce que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, non, en tout cas que nous n'avons pas connu nous. Et je sais pas, j'ai eu un drôle de sentiment entre ces deux spectacles, ce qu'ils voulaient dire, ce qu'ils envoyaient comme signaux. Et puis, ce qui nous est arrivé à partir du mois de mars.
Ces spectacles, on pourra les revoir les saisons prochaines. C'est l'une des questions qui revient régulièrement. Ça coûte cher de faire une mise en scène. Il faut la rentabiliser.
Oui,
le Moïse et Aron, est-ce qu'on le reverra un jour?
Oui, j'espère. Je pense que Alexandre Nef l'a dit déjà à plusieurs reprises. Il y a pas de rupture. Moi, j'étais pas du tout en rupture avec Nicolas Joël. J'ai pas travaillé dans cette idée-là. Il y a pas de rupture. C'est une continuité. Ça fait 350 ans. Donc, on amène chacun notre pierre et voilà. Il faut, chacun est différent et heureusement qu'on est différent. Heureusement qu'on a des goûts différents, qu'on défend un répertoire différent, chacun prend des risques différents, c'est très bien comme ça. Non, je pense que c'est à Alexandre Nef ensuite de décider les spectacles qu'il souhaite reprendre.
Stéphane Lissner dirige l'Opéra de Paris jusqu'au 31 décembre. Il est avec nous sur France Musique jusqu'à 9h. Et voici en face de lui Sophia Anastasio qui régulièrement raconte les boires et déboires de l'Opéra de Paris. Bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste.
Classique info avec, on commence par cette information, Yann Beuron qui met un terme à sa carrière lyrique.
Le ténor âgé de 52 ans a décidé de quitter le métier de chanteur lyrique et c'est via son compte Facebook qu'il en a informé le public. Il explique sentir que c'est le moment pour lui et qu'il compte profiter de la vie différemment. Il précise que sa dernière apparition sur scène se fera à l'Opéra Bastille la saison prochaine dans le Soulier de Satin, opéra en création mondiale de Marc-André Dalbavy.
Le festival Artistes en Résistance, Artistes en Résidence est suspendu à l'Opéra de Dijon.
Lancé le 27 mai, ce festival, qui se voulait être un geste militant de soutien aux artistes, avait permis à ces derniers de retrouver la scène de l'auditorium et de jouer en public depuis le 17 juin devant une jauge réduite, 400 personnes par représentation. Mais suite à la découverte d'un cas positif de Covid-19 parmi les artistes, l'Opéra a décidé de suspendre son cycle de concerts jusqu'au 28. Une mesure prise à regret qui va au-delà des préconisations officielles, indique l'Opéra dans un communiqué. Pour lui permettre d'envisager la reprise de ses activités, l'ensemble des concerts diffusés reste visible sur le site internet de l'Opéra. Certains seront diffusés sur France Musique cet été.
Une question, l'univers de la musique classique est-il raciste?
Une question qui ne cesse d'être posée depuis plusieurs semaines dans un contexte de manifestations antiracistes partout dans le monde. Interrogé par la télévision britannique, le jeune violoncelliste de 21 ans, Sheku Kanemason, qui est noir, a été interrogé sur la diversité dans le milieu. Je pense qu'il est facile de pointer du doigt la musique classique, mais cela commence bien avant la carrière professionnelle, déclare-t-il. Je pense que cela tient davantage au manque de diversité et d'opportunités dans l'éducation musicale. Il ajoute ainsi, je ne dirais pas que la musique classique est un milieu raciste. Le problème est plutôt que très peu de Noirs ont la possibilité d'en faire l'expérience. Parallèlement, sur Instagram, un groupe nommé Opera is Racist, je traduis l'opéra est raciste en anglais, a été créé, une plateforme qui permet aux gens de dénoncer des actes de discrimination raciste dont ils ont été victimes dans le cadre de leur travail ou de leurs études. Pour le moment, aucun nom n'est cité, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, déclare la plateforme, c'est simplement de libérer la parole. Elle recense pour le moment une cinquantaine de témoignages.
Classique info à retrouver sur francemusique.fr. À demain, Sophia.
À demain.
Stéphane Lissner est notre invité jusqu'à 9h. Je voudrais, si vous voulez bien, qu'on réagisse à ce que, oui, ce qui vient d'être dit par Sophia Anastasio. On le voit beaucoup aux États-Unis dans certaines maisons d'opéra, ce mouvement Black Lives Matter. Est-ce que l'univers de l'opéra est raciste? Ou est-ce que ces questions se posent aussi pour vous comme directeur d'une institution?
La question se pose, oui, on doit se la poser. Mais je pense que la réponse de l'artiste est très juste. Ça, c'est un problème bien au-delà du problème de la musique classique ou de l'opéra. C'est vraiment un problème dès le départ. Quel est l'accès pour tous dans les conservatoires pour apprendre la musique, pour découvrir la musique à l'école, etc. Comment ça se passe? Cette ségrégation qui existe encore, malheureusement, on le sait, forcément, elle touche tous les milieux, elle touche la culture, elle touche évidemment aussi la musique classique. Voilà. Oui, je pense qu'on doit être attentif. Oui, on doit être attentif et alors après on rentre dans parfois de certains excès. Par exemple, l'histoire de Blackface, pour moi c'est une chose qui m'a un peu perturbé parce que nous avions une mise en scène de Benoît Jacquot dans La Traviata où il avait décidé de à travers une peinture de Manet de d'avoir. Alors oui, je comprends très bien cette idée je comprends bien ça, mais je crois qu'il faut faire un peu attention à ne pas, voilà. Alors, Aïda, par exemple. On ne peut plus, elle doit être, Othello, etc. Oui, on peut décider, effectivement, que c'est, aujourd'hui, on peut le comprendre, on peut comprendre cette réaction. Parfois, je trouve, que c'est un peu excessif. Et la représentation qu'on fait au public, c'est une représentation aussi qui est liée à l'histoire, au livret qu'on raconte. Et il s'avère que Aïda est une jeune esclave et que donc dans le livret tel d'ailleurs qu'il est écrit, elle est voilà, bon, c'est discutable. Moi, je suis toujours très inquiet quand il y a quand c'est trop radical et quand il y a trop d'excès en tout. Donc, je trouve qu'il faut toujours savoir un peu s'arrêter. Et en ce moment, on est dans un monde où vraiment l'émotion a pris la place de la raison. Et ça, c'est très préoccupant, l'histoire des statues, des boulonnais, tout ça, c'est très préoccupant. Notre histoire, c'est un bloc, c'est une histoire qu'on a tous vécue avec le bien et le mal. Et je trouve, et en chacun de nous aussi, il y a du bien et du mal. Et donc, j'aime pas bien cette idée que tout d'un coup, on se penche comme ça aussi sur le passé d'une façon tellement émotionnelle.
Stéphane Lissner, vous avez encore, on l'a dit, 6 mois de direction à l'Opéra de Paris. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire d'ailleurs à l'Opéra ces prochains mois? Est-ce que votre esprit est déjà à Naples?
Non, mais mon esprit n'est pas à Naples. Mon esprit aujourd'hui, c'est de terminer. D'abord, j'ai lancé ces travaux. Hein, je fais travaux. Pour moi, c'est très important de pouvoir assumer les travaux. Quand je vois ce qui se passe au niveau sanitaire à l'international, je me dis chaque jour, je crois que j'ai eu bien raison de faire ces travaux parce que je ne sais pas très bien dans quelles conditions on va reprendre nos activités en septembre-octobre. J'ai eu un peu de mal à convaincre. Mais je crois que voilà, c'est ça ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est d'avoir un peu de vision sur le futur de cette maison.
Qu'on disait avec l'Opéra de Dijon, là, il y a des cas qui apparaissent et qui annulent des festivals.
Oui, alors fermés pour faire ces travaux, ils sont nécessaires, de toute façon. Ensuite, je suis en train, avec les musiciens et avec le ballet, de préparer toute une saison à partir du 15 septembre à l'avant-scène de Garnier. Donc, il y aura du ballet pendant la semaine et des concerts le week-end, jusqu'au 31 décembre à Garnier. Et puis, la saison reprendra à partir du 22 novembre. Et nous essayons, avec difficulté, mais j'espère qu'on va y arriver, nous essayons de faire au moins un cycle du Ring en version concert pour satisfaire d'abord notre public et puis aussi parce que je pense que les musiciens et tous on souhaiterait avoir ce Ring, donc on y travaille et j'espère qu'on va trouver des solutions, sûrement en supprimant quelques représentations de Traviata, de Bayadère, de Carmen. C'est compliqué de changer les plannings, c'est toujours très compliqué à l'opéra, c'est une maison complexe, hein, quand on bouge le bateau c'est pas facile, mais j'espère qu'on va arriver à faire ce cycle et qu'on pourra l'annoncer dans quelques jours.
Ah, une info peut-être, ou en tout cas des projets en cours. Moi, je vous propose qu'on s'arrête quelques instants et qu'on écoute la voix de Jonas Kaufmann. Thank you. De Jonas Kaufmann dans cet extrait de la Valkyrie, ici avec l'orchestre de chambre Mahler dirigé par Claudio Abbado. Vous nous dites qu'il y aura donc sans doute en version de concert un ring à la fin de l'année, civile.
J'ai pas dit sans doute, j'ai dit on fait tout pour.
D'accord, probablement.
J'espère.
Avec la voix de Jonas Kaufmann.
Jonas Kaufmann devait chanter effectivement Siegmund, donc on a les dates, il y a un contrat, donc a priori, si on arrive à faire ce cycle, Jonas devrait être à Paris.
Il y a une dizaine de jours, votre successeur Alexander Neff annonçait d'ailleurs sur France Musique qu'il y aurait sans doute la reprise de ce ring mis en scène par Calixto Bieto dans quelques saisons. Dans le Figaro, le week-end dernier, Philippe Jordan, le directeur musical, le chef d'orchestre, se dit frustré, triste, déçu et en colère. Vous partagez ce sentiment là où vous comprenez cette amertume de votre directeur musical?
Oui, je comprends l'amertume, parce que quand on a dirigé une maison comme celle-là pendant plusieurs années et que c'est la fin, vous savez, normalement il aurait dû terminer son contrat à la fin de la saison 2021, il a décidé de terminer à la fin de cette année, donc il a anticipé également lui de 6 mois d'ailleurs son départ, et donc c'était sa dernière production. Donc oui, il y a une déception. Forcément, il y a une déception de ne pas pouvoir terminer Le projet sur les 7 ans, c'était quand même de Moïse et Aaron jusqu'à la tétralogie. Hein. C'était ça qu'on avait sur lequel on avait travaillé. Donc forcément, il y a eu le départ. Il n'y a pas la fin.
Sauf s'il est invité dans quelques saisons à diriger un ring à l'Opéra de Paris.
Ah oui.
Si les élèves de l'école de danse ont repris les cours là à Nanterre lundi, ouais. Le ballet n'aura pas dansé si on compte bien pendant presque un an. Stéphane Lissner. Comment peut-il se relever de ça?
Ils vont d'abord, c'est des grands professionnels, donc ils se sont d'abord entretenus pendant toutes ces semaines. Ensuite, là, ils vont recommencer à travailler. Ils retravaillent déjà, d'ailleurs. Et puis ensuite, on va établir, justement, cet après-midi, nous avons à ce sujet une réunion importante sur laquelle on va définir toute la programmation à partir du mois de septembre jusqu'au 31 décembre. Il y aura du ballet chaque semaine entre septembre et le 31 décembre à Garnier, devant le rideau de fer.
45 millions de dettes, c'est votre successeur qui va mettre en place un plan de relance drastique. Mais vous vous parlez, vous lui donnez des conseils. L'Opéra de Paris, comment peut-il se relever? Quelles sont ou les pistes?
Non, j'ai pas à lui donner des conseils. Je crois simplement que ce qui va définir, ce qui va redéfinir la politique de la maison, ça part toujours d'une seule chose, ça part de la programmation et donc des plannings. Voilà, combien d'opéras à Garnier, combien d'opéras à Bastille, combien de ballets, etc., etc. Et à partir de là, il y a une foule de paramètres. Et donc, il va avoir à faire des choix. Voilà. De toute façon, diriger une entreprise, c'est faire des choix. Là, malheureusement, il arrive dans une situation qui est difficile. Voilà. Mais vous savez, on a tous connu des moments difficiles. J'en ai connu à la Scala de Milan, j'en ai connu en 2003 avec la séquence très triste des intermittents à Aix-en-Provence. On vit tous des moments difficiles. Disons qu'à Paris, là, depuis les 5 dernières années, on a été plutôt gâtés, hein, question problème. Mais il faut les assumer, on est là pour ça, on a une responsabilité, on a accepté cette responsabilité. Et moi, jusqu'au 31 décembre, jusqu'au dernier jour, j'assumerai cette responsabilité. Mais je pense que nous verrons, d'ailleurs c'est prévu, dès qu'il pourra venir, parce qu'il est à Toronto, hein, donc en dehors des frontières de Schengen, ce qui pose un certain nombre de problèmes de communication et pour venir ici. Mais on a prévu de se voir dès que c'est possible, début septembre, et là, effectivement, il y aura un travail qu'on va faire en commun, avec Martin Jarry d'ailleurs, tous les trois, pour préparer le futur. Oui, absolument, pour préparer le futur.
Merci Stéphane Lissner. en début de saison, je vous demandais si vous n'aviez pas de regrets, toujours pas.
Non, j'ai pas de regrets, mais je voudrais dire juste un mot avant de conclure. Je voudrais vous dire que j'ai entendu sur France Inter il y a quelques jours des propos de Claude Samuel. Et je connaissais bien Claude Samuel. Je pense qu'on avait beaucoup de points communs dans la défense de certains artistes. Et j'ai été très touché par ces paroles qui étaient au fond de dire « il n'y a pas de vie confortable, une vie, quand on est à la tête d'une institution, c'est de prendre des risques. Et c'est seulement à travers les risques, à travers la création et à travers la nouveauté. On n'est pas forcément là pour juger seulement de cette création, on est là pour tout faire pour qu'elle naisse. Et si cette création est là, eh bien, on assume comme responsable, on assume cette création, cette nouveauté, pour donner au public et pour transmettre au public la venue de nouveaux artistes, de nouvelles œuvres. Et c'est fondamental. Et je pense qu'il a été un exemple pour nous, justement dans la façon dont il a toujours voulu mettre en avant des artistes connus, comme Pierre Boulez ou comme Zenakis ou comme Olivier Messiaen et d'autres, mais aussi passer des commandes. Et il explique à quel point c'est important de passer des commandes. L'Opéra de Paris devra continuer à passer des commandes, à prendre des risques. C'est ça l'art.
Le message de Stéphane Lissner et le message de Claude Samuel. France Musique lui rend hommage dans la nuit de vendredi à samedi avec une nuit entière d'archives consacrée à ce directeur de la musique de Radio France, entre autres grande voix de France Musique et de Radio France. Merci Stéphane Lissner d'être venu sur France Musique ce matin. Merci à Yacine Bouzard, à José Bernays, à Dali, à Taïsia Froidure, Margot Muller et Marion Guillemet. Demain, notre invité sera François-Xavier Roth, chef d'orchestre, qui dirige à Radio France demain, en public et en direct sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.